Bonjour! Bonjour à toutes et à tous, bonjour tout le monde. Attendez, faut juste que j'envoie un message. Voilà, c'est bon. Bonjour, 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 bonjour. Comment ça va? Merci Florian pour ton resub, merci Canicine, merci Cécile, merci Gloobituck. Merci Kingabs. Merci Maël. Merci pour vos resubs. Bonjour à tous. Est-ce que ça va? Mais dis-moi, Jean, comment est-ce qu'on fait pour soutenir ton émission Backseat? Peut-on faire des dons de manière régulière? Le cliché. Écoutez, point d'exclamation kiss kiss ou point d'exclamation Backseat dans le chat. Et vous pouvez faire partie du club Backseat qui vous donne plein d'avantages et qui vous permet de soutenir l'émission. Et voilà. Et vous pouvez aussi faire point d'exclamation place pour venir dans le public jeudi. Jeudi, on reprend Backseat en studio, comme d'habitude. Et donc, si vous voulez venir dans le public, eh ben, venez. Venez boire une bière après avec l'équipe. Venez profiter de l'émission. Et c'est moins cher que l'année dernière. Attendez, il y a un appel. Oui, allô? Pardon, c'est nul de ma part de décrocher pour dire désolé, je suis en stream. J'aurais pas dû décrocher. Pardon, pardon, pardon. Salut Rome. C'est trop long pour dire que t'as besoin de nouvelles fenêtres. Non, 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 c'était pour Poll & Chill. C'était pour Poll & Chill, ça va être trop bien Poll & Chill, vous allez voir. Encore 1 milliard de trucs à régler, mais c'est normal. C'est bientôt les sénatoriales, c'est dans 5 jours! Sénatorial, c'est dans 5 jours. Premier tour. On va en parler. On va en parler demain sur. Enfin, demain, jeudi sur Backseat. Mais ouais, les élections sénatoriales. C'est dans 5 jours. La grande particularité, quand même, des sénatoriales. J'en parlais avec Thomas Dossus, le sénateur écolo. C'est qu'en fait, les sénatoriales, c'est quand même la seule élection dont on connaît l'identité des électeurs qui sont obligés d'aller voter. Et en plus, on connaît leur couleur politique. À une très bonne approximation près. Donc en fait, c'est la seule élection dont on peut prédire les résultats. Voilà. Avec une assez bonne acuité, en fait, c'est rare que tu te plantes à quelques sièges près, ça devrait le faire, etc. Tu vois, c'est assez surprenant. Donc on connaît les résultats des sénatoriales, on connaît pratiquement les résultats des sénatoriales, il y a assez peu de surprises. C'est fou qu'on en entende aussi peu parler. Bah non, c'est pas si fou que ça quand on y réfléchit bien. Quand on y réfléchit bien, le Sénat a moins de pouvoir que l'Assemblée nationale et le Sénat ne peut pas avoir d'impact majeur sur l'avenir des choses et de la politique menée dans le pays. Première raison. Et deuxième raison, c'est une élection à laquelle bah, les gens participent pas. C'est des grands électeurs, c'est pas tout le monde, donc bon. C'est pas étonnant qu'on fasse pas une couverture mondiale sur les sénatoriales. Voilà, il y a moins d'enjeux et il y a moins de personnes concernées. Donc dans l'absolu, bon. On connaît la couleur politique des petits maires sans étiquette de communes rurales. Non, on connaît pas leur couleur politique parce qu'ils sont nombreux à pas en avoir. En revanche, comme ils ont tendance à être élus sur le temps long, on sait pour qui ils votent. Et les candidats enfin les candidats au niveau local, ils savent, ils sentent bien le maire Serge, qui est le même maire depuis 20 ans de la commune machin. On sait très bien qu'il va pas voter pour moi. Donc voilà, enfin, tu vois, c'est ce genre de, c'est ça que je veux dire quand je dis on connaît la couleur politique. Toujours une majorité de droite au Sénat, c'est ça? Oui, le Sénat a une majorité de droite sans discontinuer pratiquement, sauf exception, depuis les années 70. Donc oui, c'est une majorité de droite avec le groupe Les Républicains et son allié de l'Union centriste. Est-ce qu'il y a des pays où les sénateurs sont élus au suffrage direct? En fait, on peut pas trop faire du droit comparé comme ça en comparant Sénat avec Sénat parce que Sénat, ça veut, le mot Sénat donne des résultats différents en fonction du pays dans lequel on le prononce. Donc en fait, le Sénat français de la Ve République n'est pas le Sénat américain, n'est pas le Sénat de je sais pas quel autre pays, etc. Donc en fait, oui, le bicamérisme, c'est le fait qu'il y ait deux chambres dans le Parlement, Assemblée nationale plus une autre. Et encore, nous, c'est en français qu'on utilise le mot Assemblée nationale, mais dans plein d'autres pays, aux États-Unis, c'est la Chambre des représentants, au Royaume-Uni, c'est la Chambre des communes. Dans d'autres pays, c'est Assemblée générale, Assemblée nationale, Assemblée de, je sais pas, Parlement. Ils peuvent utiliser plein de mots différents. Donc, bref, tout ça pour dire que tu peux pas vraiment comparer les systèmes aussi simplement que ça. Tu vois, le Sénat américain, bah, c'est deux sénateurs par État, parce que c'est un État fédéral. Le Sénat fédéral américain, il y a deux sénateurs par État. Donc, il y a une surreprésentation des petits États peu peuplés. Donc, la Californie, qui est un immense État américain avec une quantité de population phénoménale, avec une économie phénoménale et tout, n'est pas mieux représentée que je sais pas quel petit État à la con, sans mépris de ma part, j'avais quand même un peu de mépris sur le coup, pardon, mais qui a beaucoup moins de population et de d'économie, etc. La Chambre des Lords, ça correspondrait à quoi chez nous? Bah rien, justement, la Chambre des Lords, c'est tellement britannique, c'est tellement le parlementarisme britannique dans un pays de common law, de constitution non écrite, etc., que ça ne correspond à rien. Je suis désolé, il y a des moments où on est forcé de constater que non, ça correspond à rien. Il n'est pas mort, Senna. T'es méchant. John Senna ou Ayrton Senna? C'est vraiment des grosses différences entre les chambres et les assemblées de l'Europe. En Europe, pour le coup, beaucoup de pays ont des systèmes relativement similaires. Mais en même temps, est-ce que le Bundesrat est comparable à un Sénat français? Non. L'Allemagne est un État fédéral, donc c'est pas pareil. Ça fonctionne pas de la même manière. Ils ont des Länder, ils ont. Je ne suis pas en train de vous dire que rien n'est comparable, etc. Parce qu'il y a évidemment une discipline de droit comparé. D'ailleurs, je suis moi-même diplômé en droit comparé, donc je suis censé pouvoir quand même vous dire que c'est génial le droit comparé. Mais justement, l'un des caractères géniaux du droit comparé, c'est que ça s'arrête très vite à des différences culturelles, philosophiques, historiques, sociologiques, politiques, économiques et tout, qui font que la comparaison devient en elle-même un exercice périlleux. Comme en Italie, par exemple. Tu vois, l'Italie, c'est un exemple, par exemple, en Italie. Pour former un gouvernement, tu dois avoir l'accord de l'Assemblée et du Sénat, ce qui n'est pas le cas en France. Et du coup, ça crée un bordel monstrueux, parce que pour avoir le vote de l'un et de l'autre, t'inquiète que la coalition gouvernementale, il faut qu'elle soit. Voilà. C'est quoi le droit comparé par rapport au droit? Le droit comparé, c'est une sous-section, c'est une sous-discipline de l'ensemble des disciplines du droit qui consiste à s'interroger sur les différents systèmes juridiques existants, les raisons pour lesquelles ils sont différents, les raisons pour lesquelles ils sont similaires, les raisons pour lesquelles, de manière dynamique, ils peuvent évoluer en se rapprochant ou en s'éloignant les uns des autres. Donc, il y a des très grands auteurs qui ont écrit des thèses fascinantes sur les formants juridiques qui circulent, le dialogue des cours suprêmes, etc. Il y a des trucs absolument extraordinaires. Vive la fac! Ah, bah, vive la recherche! Est-ce qu'il y a une raison pour expliquer que l'élection sénatoriale se fait par suffrage indirect plutôt que direct? Bah. La raison, c'est justement, oui, la volonté que le Sénat et l'Assemblée ne soient pas la même chose, sinon ça sert à rien d'avoir deux chambres. Avoir un système bicaméral, c'est une bonne idée en soi, à condition que les deux chambres soient différentes l'une de l'autre. Sinon, tu fais juste un doublon. Si la volonté de l'une est la volonté de l'autre, bah, ça sert à rien d'avoir deux chambres. En l'occurrence, le système indirect des élections sénatoriales correspond bien à la vocation du Sénat de représenter les territoires. Et donc, quoi de mieux pour représenter les territoires que de faire voter les élus dans les territoires qui sont les élus locaux? Donc, c'est pour ça que le Sénat est une chambre parlementaire élue au suffrage universel indirect, Parce que ce n'est pas les citoyens qui votent, ce sont les élus des citoyens qui votent. Donc indirectement les citoyens. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu penses que le système politique suisse pourrait fonctionner en France? En fait, la question en elle-même n'a pas de sens. Parce que si le système suisse est en Suisse et si le système français est en France, c'est pour des raisons culturelles, historiques, politiques, etc. Est-ce qu'un système pourrait fonctionner dans un autre pays? Il va falloir qu'on s'interroge philosophiquement sur la notion de fonctionnement. Ça veut dire quoi fonctionner? Sur la base de quels critères est-ce qu'on décide qu'un système fonctionne ou ne fonctionne pas? C'était d'ailleurs un point très intéressant au moment de la chute du mur de Berlin, lorsque le bloc de l'Est a éclaté, que des pays anciennement soviétiques se sont mis à expérimenter la démocratie et tout, qu'ils ont commencé à consulter des constitutionnalistes, notamment d'Europe de l'Ouest, notamment des Français, pour leur demander, bon ok, vous nous conseillez de faire comment et tout. Et bien, les Français, ils disaient, mais en fait, comment ça, on vous conseille de faire quoi? Parce que nous, en France, on a une manière de faire, mais elle n'est pas parfaite, elle est française. Vous, votre pays va devoir inventer son chemin démocratique, sa manière de faire. Je vous avais raconté cette anecdote que j'avais trouvée assez sensible et assez intéressante. C'est Dominique Rousseau, un constitutionnaliste français très connu, qui avait été consulté par les Tunisiens après la Révolution, après 2011, après que Ben Ali soit parti, où les Tunisiens s'interrogeaient sur leur modèle politique. Et donc, il avait été consulté, il était allé là-bas, et on lui avait demandé qu'est-ce que vous en pensez et tout. Et notamment, lui, il était venu avec un discours français en disant, bon, ben voilà, différents systèmes qui existent, système parlementaire, système présidentialisé, pouvoir de l'exécutif, rationalisation du parlementarisme, etc. Et Dominique Rousseau, en bon français du 20e siècle, du 21e siècle, était venu dire il était venu dire aux Tunisiens, bon, je vous conseille de faire gaffe au multipartisme, à l'explosion des partis. Un système trop parlementaire risque de créer une chambre parlementaire tellement diversifiée en termes d'idéologie politique que ça va devenir un bordel politique et ça va créer une instabilité gouvernementale. Et ça, c'est un truc très français de dire ça. Effectivement, la France a fait son histoire et on est venu à cette conclusion au bout d'un moment. Et les Tunisiens lui ont répondu, ok, on entend, c'est intéressant, sauf que nous, Tunisiens, ça fait 30 ans qu'on a un parti unique. Donc en fait, paradoxalement, cette diversité de partis, cet émiettement politique, c'est quasiment un truc qu'on veut. On a bien conscience des limites du truc, et il va falloir qu'on soit intelligent et qu'on le fasse bien, mais en fait, pour nous, c'est pas, ça nous fait pas peur. C'est même plutôt... voilà, donc il va probablement y avoir une période pendant laquelle la Tunisie va devoir... inventer une démocratie, etc., avec plein de partis, plein d'options politiques différentes et tout, mais... Voilà, donc scrutin proportionnel, pourquoi pas et tout. Vous voyez, ça c'est un bon exemple de la limite du est-ce qu'on peut calquer une constitution d'un pays vers un autre? Pourquoi faire? Comment? De quel. Enfin, bon. C'est intéressant. Dans quelle limite? Merci Totoradio pour ton resub. C'était Graeber et Wengrof qui disaient que les systèmes politiques actuels étaient très similaires les uns aux autres et que par le passé il y avait des systèmes beaucoup plus divers et inventifs. Genre selon la saison, on est une autocratie ou une démocratie. D'accord, je connaissais pas cette thèse. Au demeurant, c'est vrai, alors ça aussi, c'est en droit comparé. Donc là, en droit comparé, moi j'ai eu des cours et j'ai lu des bouquins pendant mes études sur la mondialisation du droit, la mondialisation du format politique. Pourquoi est-ce qu'au XVIe siècle, tous les pays du monde se sont dirigés vers le même modèle qu'est l'État souverain? Pourquoi? Qu'est-ce qui a fabriqué ça? Qu'est-ce que philosophiquement, etc. Il y a eu la colonisation qui a beaucoup aidé, mais pas que ça. Il y a eu plein de trucs qui ont fait évoluer et qui ont fait qu'en fait, l'État-nation, pardon, pas l'État souverain, l'État-nation, qui est un modèle type, qui a un peu été copié. Alors, un État-nation, tu peux y foutre un roi ou une démocratie, hein, ça ne change rien. C'est pas une question de modèle politique, là. Une question de structuration. Donc, bref. Et donc voilà, et donc de nos jours, effectivement, il y a une mondialisation du droit, il y a un phénomène de mondialisation politique qui est aussi une mondialisation culturelle, qui est aussi une mondialisation économique, évidemment, tout ça est entremêlé. Et dans cette mondialisation, on a aussi affaire à des mondialisations des formats juridiques, des pensées du droit, des pensées de l'État, de sa rationalisation. Par ailleurs, il y a aussi une discipline qui est née après la Seconde Guerre mondiale, qui est la protection internationale des droits de l'homme. La proclamation de droits universels, bah, ça implique directement une idée que, bah, qu'il y a un moment, il va falloir qu'on se dirige tous vers des systèmes où on protège les droits des êtres humains, la prohibition universelle de la torture, le génocide comme crime contre l'humanité, imprescriptible, le respect des droits des individus, le respect des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc c'est à la fois un modèle de la décolonisation et un modèle aussi de la protection des droits. Et bien ça, c'est un sujet passionnant. Et c'est un sujet qu'on continue à voir encore aujourd'hui. On voit bien que ça fricote quand il y a des gens qui disent « Oui, mais moi, ma culture locale, elle est de cramer les homosexuels. Donc, en fait, je fais ce que je veux, je suis souverain chez moi. » C'est le responsable tchétchène, là, dont j'ai oublié le nom, qui avait dit ça. « C'est pas compliqué, il n'y a pas d'homosexuel. Et si jamais il y en a un qui sort, on lui coupe la tête. » D'accord, intéressant. On peut en discuter. Kadirov, merci. En tant qu'étudiant en sciences politiques, mon prof qui donne un cours sur les institutions nous dit clairement qu'une institution ne peut pas être imposée comme ça, que ce sont des greffes. C'est comme greffer n'importe quel cœur sur un malade, les chances de rejet sont énormes. Et ça, c'est parfaitement vrai, Justine, c'est parfaitement vrai, je suis absolument d'accord. Par exemple, vous voyez le défenseur des droits en France? C'est nouveau le défenseur des droits. C'est un truc qui n'existait pas avant. Ça a été créé en 2008 par la réforme de la Constitution. On a une autorité administrative indépendante du gouvernement qui n'est pas non plus la justice et qui a la vocation à protéger les droits des personnes, à rendre des rapports, à observer comment fonctionnent les droits, etc. Ça, ce modèle-là, c'est directement inspiré d'un modèle d'Europe du Nord qui s'appelle l'Ombudsman. L'Ombudsman, alors j'ai un très très mauvais accent suédois, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Mais il y a des pays dans lesquels, depuis très longtemps, ça existe, ça. Eh bien nous, en France, on l'a créé. C'est nouveau. Donc le défenseur des droits a dû inventer une manière française de créer cette institution nouvelle avec un rapport avec l'État, avec le gouvernement, avec les médias. Comment un journaliste français, il interviewe un mec comme ça, c'est bizarre. Il n'est pas membre du gouvernement, il n'est pas tout à fait à l'État parce qu'il est indépendant. C'est pas la justice, en même temps, il protège les droits, etc., 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 etc. Bon, ben voilà, très bon exemple. L'Ombudsman, c'est un truc qu'on a importé parce qu'on a trouvé que c'était intéressant. On essaye de le mettre en place et ça fait bah, depuis 2008 que la France crée son propre chemin vers une défense des droits. L'ombudsman du suédois Ombudsman, souvent désigné en français comme médiateur, défenseur ou protecteur, est une personne chargée de représenter un ensemble de personnalités physiques ou morales. Son champ de compétence porte sur des différences de type administratif ou dans le secteur public ou privé, comme le recours à un médiateur, le recours à un ombudsman est gratuit. Voilà. Ils sont nommés par qui? Le défenseur des... Alors, c'est les autorités administratives indépendantes, c'est un peu justement le caractère indépendant du truc. Donc, c'est sur proposition du gouvernement avec validation nécessaire par la commission concernée par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Donc, il y a un système d'oral, etc., où il faut qu'il soit validé. Genre un peu comme les commissaires européens qui doivent être validés individuellement par le Parlement. Et la France s'était fait rejeter une commissaire, parce qu'elle ne faisait pas l'affaire. Ça reste une autorité administrative qui dépend donc tout de même du Conseil d'État. Comme tout sujet, les AI ou l'aspect indépendant reste toujours un peu discuté. Ah oui, non, mais alors attention, dépendre du Conseil d'État, on dépend tous du Conseil d'État. Le Conseil d'État, c'est une cour suprême. Je vous rappelle que le Conseil d'État, il applique le droit. Heureusement que tout le monde dépend du Conseil d'État. Heureusement que tout organe administratif, fût-il indépendant, doit appliquer le droit. Et qu'il y a un Conseil d'État qui est là pour lui claquer la gueule s'il fait n'importe quoi. Bah, heureusement. Donc il ne dépend pas du Conseil d'État. Une autorité administrative indépendante, quand elle rend des décisions, ces décisions sont attaquables devant les juridictions administratives, principe de l'état de droit, et le Conseil d'État peut, en dernier recours, dire bah non, je suis désolé, le droit applicable, c'est ça. Comment on saisit le défenseur des droits? C'est sur son site internet très directement. Pourrais-tu expliquer ce qu'est le Conseil d'État? Bah justement, je viens de commencer à te l'expliquer. Le Conseil d'État, c'est une cour suprême en France. Ce n'est pas la cour suprême comme s'il n'y en avait qu'une, parce qu'en fait, en France, on en a deux des cours suprêmes. Voire même, on peut dire qu'on en a trois, mais c'est un peu compliqué. Il y a deux ordres juridiques en France qui sont séparés l'un de l'autre. C'est l'ordre juridique judiciaire et l'ordre juridique administratif. D'accord? Ordre judiciaire, ordre administratif. L'ordre judiciaire, c'est la justice pénale, c'est la justice civile, c'est la justice commerciale, c'est la justice des prud'hommes, c'est la justice, etc., qui s'occupe des relations entre les personnes, entre personnes privées. Donc entre deux entreprises qui se font la guerre et qui ont un truc de concurrence, et ben c'est une justice judiciaire. Deux époux qui veulent divorcer, et voilà, ou qui veulent se marier, voilà. Adoption, pareil. Donc droit de la famille. Bref, droit de voisinage, je veux acheter une bagnole, droit commercial, droit machin, droit truc, les options, les obligations, les machins, droit des obligations, droit des contrats, c'est tout ça. Ok? À côté, tu as un autre ordre administratif qui s'appelle l'ordre, tu as un autre ordre judiciaire qui s'appelle l'ordre administratif et qui lui s'occupe de toutes les relations entre les personnes et l'État. Ou pour être plus précis, entre les personnes et les autorités de droit public, que sont l'État, les collectivités locales, les organisations, les organismes de la sécurité sociale et tout un tas d'autres trucs dont je vous épargne la liste. Et donc chacun de ces deux ordres judiciaires à une cour suprême. Pour l'ordre judiciaire, c'est la cour de cassation, dont vous avez déjà entendu parler, et pour l'ordre administratif, c'est le Conseil d'État. Conseil d'État, donc c'est la cour suprême de l'ordre administratif qui est là pour appliquer le droit, et donc le Conseil d'État, en dernier recours, dit bah non, il peut casser les arrêts des cours administratives d'appel, ou il peut les confirmer, etc. Bref. Donc voilà, le Conseil d'État, donc il a cette casquette judiciaire. Il a une deuxième casquette importante, c'est, comme son nom l'indique, il conseille l'État. C'est bizarre, mais en fait, il apporte des conseils, il accompagne l'État et surtout le gouvernement dans son travail de préparation des projets de loi et dans son travail administratif d'écriture des décrets. Pour être bien sûr que le décret d'application de la loi, il correspond bien à la loi, il est bien cadré juridiquement, le Conseil d'État rend des avis sur les projets de réglementation du gouvernement. Et le Conseil constitutionnel, de son côté, il est un peu particulier, le Conseil constitutionnel, parce que le Conseil constitutionnel, il juge la conformité des lois à la Constitution. C'est pas un truc que tout le monde peut saisir, machin, c'est un truc très spécifique. Alors, il y a des débats entre les... Il y a des auteurs de doctrine en droit, il y a des chercheurs, il y a des intellectuels qui théorisent l'idée qu'il y a y a trois ordres judiciaires en France, parce que l'ordre constitutionnel est devenu un ordre nouveau à partir de la Ve République. Notamment depuis les QPC. Je ne vais pas rentrer dans le détail beaucoup plus que ça, mais bref. Ces débats-là sont passionnants. Hein. Ça fait des heures de colloque entre juristes, on adore, etc. Mais bref, donc l'ordre constitutionnel, le Conseil constitutionnel s'occupe de la validité des lois avec la Constitution. Et il faut pas l'oublier, le Conseil constitutionnel a une deuxième prérogative. Le Conseil constitutionnel, c'est le juge des élections. Voilà. C'est pas le Conseil d'État, c'est pas la Cour de cassation, c'est le Conseil constitutionnel qui peut invalider une élection. Et seulement lui. Je viens de finir mon mémoire sur le Conseil constitutionnel et sur le contrôle des élections. Ah, quel bonheur! Putain, ça me rappelle des souvenirs, ça. Le contrôle des élections, le droit électoral, c'était une de mes matières préférées tellement je la détestais. Oh, l'embrouille! C'est quoi les règles applicables à une élection municipale dans un village de 200 habitants? Bon, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Faites au plus simple. En gros, faites au mieux. Faites au mieux. S'il y a des recours, on verra, mais faites au mieux. Ça change selon le nombre d'habitants. Absolument. Les règles électorales aux élections municipales varient selon le nombre d'habitants dans la commune. Il y a des règles qui s'appliquent aux petits villages, il y a des règles qui s'appliquent aux très grandes villes. Une ville comme la ville de Paris qui a 2,5 millions, 2 millions d'habitants, ce n'est pas les mêmes règles électorales exactement que le petit village de Saint-Marqueur-en-Barwel, que je viens d'inventer, qui lui, de toute façon, il n'y a pas de conseil municipal, il y a un maire. Il y a une urne, un bureau de vote, un maire, et au fond de l'urne, il y a 27 bulletins. Voilà, faites au mieux pour le dépouillement, faites au mieux pour garantir le secret du vote. En général, il n'y a qu'un candidat, de toute façon, ça règle la question dans ce genre de petit village. C'est toujours Serge, qui est élu depuis 40 ans, que ça fait quand même quelques années, qui dit « Je commence à vieillir, les gars, vous voulez pas me remplacer ?» Et tout le monde lui dit « Non, Serge, on t'aime bien, on te fait confiance, personne n'a envie de prendre le boulot à ta place. » Et la Cour de justice de la République, qu'est-ce que c'est? La Cour de justice de la République, c'est une juridiction temporaire, qui n'est pas permanente, et qui est la seule ayant la possibilité de juger des ministres pour des faits commis dans le cadre de leur fonction de ministre. De manière, ça sert à garantir la séparation des pouvoirs. Oui, pardon, pardon, excusez-moi, j'envoie un message en même temps. J'ai une question toute conne, comment on rentre à l'ENS après une licence de droit alors qu'habituellement il faut faire prépa? Bah tu passes le concours. Je rappelle qu'une prépa, ce n'est rien d'autre qu'une préparation au concours. Vous n'êtes pas obligé de faire prépa pour passer le concours. Bon courage pour y arriver sans prépa, mais c'est possible. Et puis par ailleurs, oui, alors l'ENS, bon bref, je vais pas rentrer dans le détail, il y a aussi des entrées sur dossier, mais ça c'est plutôt pour les masters. Bah oui, d'ailleurs, oui, après une licence, j'en sais rien. Ça dépend des masters, je sais pas, je sais pas. Je pense que le site internet de l'ENS te répondra beaucoup mieux qu'un streamer sur Twitch. On en est où de l'inscription dans la constitution de l'IVG? Eh bah j'en sais rien, c'est une très bonne question. Le Sénat et l'Assemblée nationale se sont mis d'accord sur une même version de la loi. Il y a une loi constitutionnelle qui a été votée. Maintenant, ça passe entre les mains du président de la République qui a le choix. Soit il réunit un congrès, soit il fait un référendum. Emmanuel Macron semble se diriger vers l'option d'un référendum avant la fin de son quinquennat, dans lequel il va rajouter l'IVG dans la Constitution. Mais à mon avis, il ne va pas proposer que ça. Il va rajouter d'autres trucs. L'ENS est toujours l'école normale supérieure. L'ENS, c'est toujours l'école normale supérieure, absolument. C'est quoi le processus pour ajouter quelque chose dans la Constitution? Y en a deux. Il y a l'article 11 et l'article 89. L'article 11, c'est la possibilité pour le président de la République de faire adopter n'importe quelle loi directement par le peuple, par constitution, par référendum. Pardon, pardon, pardon. Non, mais en plus, je suis con, je suis pas en train de répondre à ta question, je suis en train de répondre à la question du référendum. Oh, j'ai raté mon oral de droit public. Oh! Oh, le streamer en carton. Pour modifier la constitution, il faut que le Parlement vote une loi. Et que l'Assemblée nationale et le Sénat soient d'accord pour voter et adopter cette loi. Et une fois que cette loi est adoptée, pour qu'elle rentre dans la Constitution, il faut soit que le Congrès la vote à la majorité des 3/5, soit que le peuple français réuni en référendum l'adopte à la majorité simple. Autre solution qui a été utilisée une fois, mais qui en fait est illégale. Consiste à faire un référendum directement sans passer par le Parlement en disant nique, je fais ce que je veux. Bon, pour faire ça, il faut que quelques conditions soient réunies. Il faut que tu t'appelles Charles de Gaulle et il faut que tu sois dans la France des années 60. Aujourd'hui, les constitutionnalistes s'accordent à dire que ce ne serait plus possible, ça. Mais bon, je suis obligé de vous dire que ça a eu lieu une fois. De la démocratie directe. Une certaine idée de la démocratie directe, on va dire. On peut dire ça, ouais. C'est une cascade pour les professionnels, oui, c'est ça. C'est une cascade de la tente est pas chez vous. Démocratie directe à la carte. Oui, non, c'est une démocratie directe avec un costume de militaire, quoi. Voilà, c'est un peu comme un coup d'État, quoi. Bon, tu prends le pouvoir par les armes plutôt que le prendre par les urnes. Est-ce que c'est démocratique? Même si tu jures la vie de ta mère que tu le fais au nom du peuple, ton coup d'État. Bon. Et c'est notamment après, donc blague à part, c'est notamment après ce petit coup de Trafalgar du général de Gaulle en 1962 que François Mitterrand a écrit son livre qui s'appelle Le coup d'État permanent, dans lequel il critiquait la Ve République et le gaullisme, l'un et l'autre étant intimement liés. Après, c'était seulement pour instaurer le suffrage universel direct, pour l'élection du président de la République, oui. Oui. On a dû te poser la question 100 fois, mais quand reprennent les QAG? Les QAG reprennent mardi prochain. Est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi le 49-3 a été créé? L'article 49, alinéa 3 de la Constitution, a été créé en 1958. Il fait partie des instruments qui ont été mis dans la Ve République pour lui permettre d'éviter d'être la Quatrième République et pour permettre une continuité de l'action gouvernementale malgré les soubresauts politiques du Parlement. 49.3, dans une copie de droit public, vous devriez écrire: le 49.3 est un outil de rationalisation du parlementarisme. Comme nous allons le voir dans la première partie. Donc voilà, le 49.3. Le problème en fait que j'ai avec le 49.3, j'en ai plus d'un, mais l'un des problèmes que j'ai quand je vous en parle et quand je le vulgarise, c'est qu'en fait le 49.3 est un outil, mais qu'il y a différentes manières de l'utiliser cet outil. Et il y a plusieurs 49-3 possibles, il y a plusieurs contextes politiques dans lesquels un 49-3 est utilisé, il y a plusieurs raisons pour lesquelles un 49-3 est utilisé, il y a plusieurs réceptions du 49-3 par les parlementaires et par la population générale. Voilà. C'est juste le plus fort des outils. Oh non, il y a plus, il y a pire. C'est un peu comme un char et un soldat. Oui, si tu veux, oui. Pire, c'est-à-dire. Oui, il y a l'armée, bah, il y a l'article 16. L'article 16 de la Constitution est un article. Comment dire? Bah, qui prévoit tout simplement de suspendre la démocratie, hein. On va dire ça comme ça. Voilà. L'article 16, c'est dans un contexte militaire. On appelle ça les pouvoirs exceptionnels. C'est joli comme mot, les pouvoirs exceptionnels. Je sens qu'on n'a pas fini de gueuler. Alors, l'article 16, si d'aventure il était utilisé, je pense que tu pourrais pas trop gueuler, parce qu'à mon avis, c'est le genre de contexte où les manifestations seront interdites. Donc ça va aller vite, hein. Les pouvoirs étendus. Ouais, les pouvoirs étendus. C'est joli aussi. C'est un euphémisme. Un exceptionnel pouvoir implique aucune responsabilité. Oui, c'est ça. Un grand pouvoir qui n'implique pas beaucoup de responsabilité. Non, c'est assez tranquille. Il y a un contrôle du Parlement quand même. Il y a un contrôle du Parlement dans le cadre de l'exercice de l'article 16 au bout de plusieurs jours, ouais. Puis de toute façon, le Parlement ne peut pas être réuni. Et pareil, alors j'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. Tiens, c'est l'occasion de faire de la pub pour ma chaîne YouTube. Allez voir ma chaîne YouTube. J'avais fait une vidéo sur l'article 16 où je vous expliquais les conditions d'application et justement ce que ça impliquait. Salut Jean, il faut combien de temps à peu près pour lire toute la Constitution? Elle fait 80 pages de mémoire, la Constitution. Non, elle fait plus que ça. Ah non, peut-être pas. Bah écoute, je sais pas. Va checker le PDF sur le site internet du Conseil constitutionnel. Sinon, tu peux regarder ma vidéo YouTube où j'ai lu l'intégralité de la Constitution en ASMR. Pour ceux qui étaient là à l'époque et qui s'en souviennent. Il y a une vidéo de moi en train de lire l'intégralité de la Constitution en ASMR. Je crois que la vidéo dure 3h30, 4h. Vous savez qu'il y a des gens qui m'ont dit. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils aiment bien cette vidéo parce qu'ils l'ont mise en favori et que des fois ils l'écoutent pour s'endormir. Je trouve ça trop mignon. Faites ce que vous voulez. Cette vidéo, elle est là pour vous. Mais hey, franchement, si ça vous aide, allez-y. Si je peux vous aider à dormir, ouais, allez-y. Salut Jean, tu pourrais expliquer à quoi sert le Conseil d'État? Je l'ai expliqué il y a 15-20 minutes avant que tu arrives. Désolé, je vais pas répéter pour tous les autres. N'hésite pas à regarder le replay de ce stream en allant dans les vidéos de ma chaîne YouTube. Tu l'as lu en stream? Ah oui, je l'ai lu en stream. C'était un donation goal du The Event, pour ceux qui ont oublié. C'était un donation goal du The Event où je m'étais engagé à lire la Constitution en ASMR et je l'ai fait. Voilà. Soixante-dix pages environ. Ok, d'accord. J'en profite. Est-ce qu'il y a une vidéo qui explique pourquoi le gouvernement peut tout décider, peut tout seul décider, par exemple, qu'on se perd plus de points pour un petit excès de vitesse sans passer par un vote? Oui. Alors l'explication à ça, c'est ce qu'on appelle le domaine réglementaire. Il y a deux types de décisions qui peuvent être prises. Oh, il n'y en a pas que deux, hein, il y en a plein. Mais dans la hiérarchie des normes. Je rappelle que en droit, les normes sont comme une forme de pyramide. Plus vous êtes bas dans la pyramide, moins les normes sont importantes en termes d'importance dans la vie de la cité. Et plus vous montez dans la pyramide, dans la hiérarchie des normes, plus vous arrivez vers les normes qui sont les plus importantes. Et il y a un juriste qui s'appelle Hans Kelsen qui a démontré que cette hiérarchie des normes était guidée par la difficulté à changer les normes. Les normes les plus dures sont tout en haut, les plus dures à changer sont tout en haut. Et les normes les plus faciles à changer sont tout en bas. Pour vous le dire très vulgairement, tout en bas, vous avez le règlement intérieur du square à côté de chez vous. Voilà, le règlement du square, interdit de jouer au ballon, les chiens tenus en laisse, interdit de s'asseoir sur les pelouses, etc. C'est le niveau le plus basique qui puisse exister de règles que vous devez respecter. Et c'était dicté par le conseil municipal. Donc on est au niveau local, c'est la mairie, c'est le conseil municipal qui prend une décision, machin, etc. Ok? Et ensuite, quand vous montez, vous arrivez dans les, par exemple, où on a les circulaires ministérielles. Voilà, une circulaire ministérielle, c'est une consigne donnée par un ministre à ses fonctionnaires sur la manière d'appliquer les règles, sur les objectifs attendus, etc. Bon, je vous la fais à la serpe, hein, je vais pas rentrer dans le détail à chaque fois. Au-dessus, vous avez les règlements. La réglementation qui s'impose à tout le monde sur la manière de faire de machin, de trucs. C'est généralement des règlements techniques sur comment est-ce qu'on fabrique une voiture, comment est-ce qu'on vend une boisson, comment est-ce que machin et machin et tout. Ensuite, vous avez les décrets, qui sont des décisions gouvernementales, qui appartiennent donc toujours, enfin bref, qui sont des décisions gouvernementales et qui visent à préciser la méthodologie d'application des lois. Et au-dessus, vous avez les lois. Les lois qui sont votées par le Parlement, c'est l'acte du Parlement, la loi, conforme à la Constitution, etc. Au-dessus des lois, vous avez les lois organiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est des espèces de super lois, des super lois cadres, on va dire, qui organisent souvent en fait les pouvoirs publics. Donc les lois organiques, c'est pas un truc qui s'applique au quotidien des mortels comme vous et moi tous les jours, hein. Les lois organiques, c'est sur l'organisation des élections, c'est sur l'organisation du pouvoir de l'Assemblée, de son règlement, c'est sur la méthodologie d'établissement des règles budgétaires par l'État et tout, machin, machin, machin. Donc l'organique, c'est passionnant, mais c'est pas un truc que vous maniez tous les jours. Ensuite, vous avez les traités internationaux qui sont intégrés plus ou moins, on va en reparler, et tout en haut, vous avez la Constitution. Tout en haut de la pyramide, il y a la Constitution. Et même là, il y a des philosophes et des juristes, etc., qui vous diront que même dans ce que j'appelle la Constitution, en réalité, ce n'est pas la Constitution, c'est ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité, parce qu'au sein même de la Constitution, il y a une hiérarchie, et il y a certains textes qui sont même au-dessus de la Constitution, comme par exemple la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui est dans le préambule de la Constitution, et c'est un texte qui est celui de 1789, et qu'on ne peut pas amender, changer, etc. OK? Dans ce que je viens de vous donner là, comme hiérarchie, oubliez les différentes strates et tout. Gardez juste deux strates en tête qui sont importantes. C'est le bloc qu'on appelle le bloc législatif, le bloc de la loi. Et juste en dessous, vous avez le bloc réglementaire. Le règlement. La différence entre le bloc de la loi et le bloc réglementaire, dans lequel il y a les décrets, les directives, enfin les circulaires ministérielles, les règlements, etc. La différence entre les deux, c'est que ce n'est pas le même pouvoir qui l'adopte. La loi, c'est l'acte du Parlement. Seul le Parlement peut voter la loi. Le gouvernement seul ne peut pas faire la loi. Il peut le faire par délégation du pouvoir du Parlement. On appelle ça une ordonnance. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ça reste le Parlement qui avalise la décision. Et en dessous, donc, ce domaine réglementaire, c'est le pouvoir propre du Parlement. Le Parlement peut édicter des règles, des règlements en application de la loi. Principe de hiérarchie, toute loi inférieure doit être conforme à la loi qui lui est supérieure. Et à toutes les lois qui lui sont supérieures d'ailleurs. Un règlement intérieur de square ou d'espace de jeu pour enfants dans un parc ne peut pas contrevenir la Constitution. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Il y a un juge qui est là pour dire, bah non, désolé, ton arrêté municipal, il dégage. C'est pas conforme à la Constitution. Là, je vous prends les deux extrêmes de la pyramide pour que vous compreniez. Mais entre les strates, pouvoir réglementaire, pouvoir législatif, pouvoir constitutionnel, etc., ça s'engueule tous les jours et ça fait le bonheur des étudiants en droit public. Bref, tu m'as posé la question sur les points de permis, et ben c'est un très bon exemple. Le code de la route, les règles en matière de droit routier sont en grande partie du domaine réglementaire. Ça relève du domaine réglementaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la loi, le Parlement a écrit que le gouvernement fixe le montant des points de permis supprimés ou machin en fonction de machin. Donc, le pouvoir législatif a dit, c'est au gouvernement de décider des points des machins. Donc, les décisions en la matière, c'est effectivement le gouvernement seul qui peut décider de les modifier. Le gouvernement, il fait pas ce qu'il veut, je vous rappelle, il est sous le contrôle du Parlement. Mais ça, c'est une autre discussion. Voilà la réponse à ta question. Quand les étudiants arrivent en droit, sur quoi porte leur premier cours? Le premier semestre de la première année de droit, c'est un semestre d'introduction au droit. Donc, tu as une introduction au droit civil, tu as une introduction au système judiciaire, tu as une introduction. Tout ce que je viens de vous dire fait partie du premier semestre. Tu as une introduction au droit, à l'histoire, pardon, pardon, pardon. Et puis, tu as déjà, je crois, dès le premier semestre, on commence direct droit pénal, procédure un peu. Mais bon, c'est une intro. Hein, c'est voilà, premier semestre, tu apprends plein de trucs. Comment est écrit un arrêt? De la Cour suprême, de la Cour de cassation, c'est quoi les différents juges, c'est quoi les rôles de chacun, machin, comment sont écrits les codes, la codification, il y a un chapitre entier où on t'apprend la codification du droit. T'as de la théorie du droit aussi, c'est un de mes cours préférés, ça. T'as du droit constitutionnel, évidemment, t'as du droit constite. Et moi, j'étais chargé de TD à la fac en droit constite. Donc j'avais des étudiants qui venaient d'avoir le bac il y a 5 mois seulement. et qui arrivaient devant moi et qui disaient je comprends rien. Et moi, j'étais leur prof. Attends, je vais t'expliquer le fait majoritaire. Je t'explique le fait majoritaire. Tu vas voir, je t'explique. Et puis par ailleurs, alors je ne sais pas exactement ce qu'il y a maintenant, mais tu dois aussi avoir des cours de sociaux, des cours d'économie. Voilà. C'est très bête et méchant comme en médecine où ça laisse place à la réflexion. La réponse que je vais te faire va peut-être pas plaire à tous les étudiants en droit, mais ça dépend un peu des matières. Il y a des matières qui prêtent beaucoup plus à la réflexion, à la dialectique et à la discussion. Par exemple, en droit public, encore que, putain, je te dis ça. C'est méchant pour les étudiants en droit public qui sont en train d'apprendre par cœur des arrêts du Conseil d'État du 18e siècle. Donc il y a un peu de par cœur débile. Mais la théorie du droit, l'histoire, etc., ce sont des matières comme ça. Après, il y a d'autres matières en droit qui sont un peu plus straightforward, un peu bachotage comme en médecine, le droit des obligations, le droit des contrats. Là, c'est un peu. Enfin, il y a un moment, voilà, le droit de la responsabilité pénale, la responsabilité civile, là, c'est un peu plus straightforward. Hein, voilà. Je suis en médecine, et je suis médecin et c'est pas bête et méchant médecine. Voilà, donc tu vois, t'as énervé les médecins. Voilà, moi j'ai énervé les juristes, toi t'as énervé les médecins. Ah bah on est fiers maintenant. Le droit privé, c'est bête et méchant. Alors voilà, le droit privé, c'est bête et méchant. C'est une phrase qui est prononcée par des connards comme moi, qui sont ce qu'on appelle des publicistes. Il y a deux camps en droit. Il y a les privatistes et les publicistes. Les privatistes, ils font du droit privé, du droit commercial, du droit de la famille, du droit pénal, etc. Et les publicistes, ils font du droit constitutionnel, du droit administratif, du droit international public, etc. Et il y a une règle. C'est que les publicistes sont supérieurs aux privatistes. Voilà, moi je dis ça. Vous faites ce que vous voulez, les privatistes. Mais voilà, vous êtes moins bien, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Il n'y a pas de. Voilà, on peut discuter, machin et tout, niquez-vous. Alors, ok, les privatistes font du pognon. Ça, c'est vrai. Ça, je vous l'accorde. Là, il doit y avoir des avocats en droit des affaires qui sont en train de m'écouter avec un cigare. Qu'est-ce qu'il raconte, ce connard de publiciste? Je me fais de la maille. Oui, vous vous faites de la maille. Mais sur un plan moral, sur un plan intellectuel, sur un plan immatériel. Nous, les publicistes, on vous méprise depuis notre infériorité hiérarchique. Évidemment, je suis très méchant en disant ça parce que dans les privatistes, il n'y a pas que du droit des affaires, hein. Droit des affaires, c'est ceux qui font du pognon. T'as aussi du droit, t'as aussi du pénaliste, payé au lance-pierre, avocat en garde à vue à 3 h du matin pour aller défendre un mec qui a été pris en flagrant délit, je sais pas quoi. Et eux, ils roulent pas sur l'or. Hein. Mais alors, pas du tout. Jamais, vous avez juste pas de code, vous vous inventez une vie. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça. À défaut d'avoir un droit écrit prévu, nous, les publicistes, on s'invente une raison philosophique de discuter et d'enculer les mouches sur des responsabilités hiérarchiques entre les collectivités locales et l'application des droits de l'urbanisme. Quel est le rôle de la préfecture dans le contrôle de légalité des plans locaux d'urbanisme? Il y a de l'enculage de mouche. Pas compris. C'est normal. C'est normal, c'est fait pour. C'est de l'emmerdement maximal de juriste publiciste. Jean, est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionnent les ordonnances, s'il te plaît? Oui, absolument. Les ordonnances, c'est une méthode un petit peu particulière d'adoption des lois. Je vous ai expliqué tout à l'heure, et je vous explique sur cette chaîne depuis 8 ans maintenant, le principe du fait majoritaire et de la responsabilité politique du gouvernement devant le Parlement. Entre le gouvernement et le Parlement, la hiérarchie, c'est par... C'est Parlement au-dessus de gouvernement. Le gouvernement dépend du Parlement. On dit en droit constitutionnel que le gouvernement est responsable devant le Parlement. Il engage sa responsabilité. Il doit avoir l'aval du Parlement, pour être plus précis, de l'Assemblée nationale, je ferme la parenthèse, pour pouvoir gouverner le pays. Et c'est même parce qu'il dépend de l'Assemblée nationale qu'il peut diriger le pays. Et une petite astérisque à tout ce que je viens de dire, c'est offre soumise à condition, puisque depuis l'année dernière, on a un gouvernement qui n'a pas de majorité, donc qui ne devrait pas pouvoir gouverner, mais il n'y a pas non plus de majorité alternative, donc en fait, il peut quand même gouverner. Je ferme cet astérisque. Abonnez-vous à cette chaîne. Donc, ce que je vous expliquais, c'est que le Parlement fait la loi et le gouvernement l'exécute. C'est pour ça qu'on dit exécutif. Donc le Parlement décide de voter une loi sur les logements, machin et tout. Le gouvernement prend des décrets pour préciser comment la loi qui a été votée par le Parlement doit s'appliquer concrètement pour les chefs de chantier, pour les gens qui déposent des permis de construire, etc. OK? Dans cette séparation très stricte que j'ai faite, je vous ai dit qu'il y avait le Parlement qui s'occupe de tout ce qui est loi et le gouvernement qui s'occupe de tout ce qui est réglementaire. Mais il y a une possibilité qui existe pour le Parlement, qui est de donner au gouvernement temporairement la possibilité de s'occuper de l'écriture d'une loi. Pas de son adoption, mais de son écriture. Et de son entrée en vigueur aussi. Cette possibilité, ça s'appelle une ordonnance. Le Parlement vote une loi qu'on appelle une loi d'habilitation. C'est une loi un peu particulière qui dit, nous, Parlement, déléguons notre pouvoir législatif pour un temps donné et sur un sujet donné au gouvernement en lui demandant de bien vouloir prendre les décisions et donc d'écrire la loi à notre place et nous ratifierons la copie au bout d'un certain délai. Donc, c'est pas un abandon de pouvoir, puisqu'on garde le pouvoir, on le donne temporairement, mais par contre, tu me ramènes ta copie et je la signe à la fin pour valider que je suis bien d'accord avec ce que tu as écrit. C'est ça ce que je viens de vous décrire, c'est une ordonnance. Voilà. C'est un peu comme un. Ben, vous avez déjà vu à la pharmacie, quand il y a un étudiant en pharmacie qui est stagiaire, qui s'occupe de préparer votre ordonnance, vos commandes de médicaments, etc. Et ensuite, il y a le pharmacien qui est son tuteur de stage, qui vient, qui jette un œil, qui vérifie que ça correspond bien et qui fait « Ouais, c'est bon. » Et bah, c'est ça. C'est le pharmacien, il a délégué à sa stagiaire, il dit bah, « Fais les préparations de commandes clients et je check chacune des préparations de commandes pour apporter mon sceau de validation en tant que pharmacien pour dire « Ouais, c'est bon. C'est les bons médicaments, c'est le machin, etc. » À quoi ça sert pour un parlement de déléguer son pouvoir à un gouvernement pour faire des ordonnances? Il y a deux raisons pour lesquelles, il y a deux raisons principales pour lesquelles on passe par le pouvoir, on fait ça. La première des raisons, c'est la technicité des sujets. Parfois, le parlement n'a pas envie de passer des heures à discuter de manière très technique sur des applications diversifiées de certaines des lois dans certains des territoires, comme par exemple la Nouvelle-Calédonie, etc. Donc il dit en fait, bon, sur toute cette partie-là, on file la patate chaude au gouvernement qui a toutes les équipes techniques qu'il faut, etc., pour l'écrire, donc allez-y, faites. Vous nous rapportez votre copie, etc. On va pas, nous, le Parlement, on doit donner la volonté dans des trucs assez généraux et abstraits. On laisse le gouvernement s'occuper de la partie un peu technique, etc. Et on ratifiera à la fin, ça nous va. Donc c'est un peu les articles additionnels ultra techniques. Bon, on vous fait confiance, vous nous les montrez, on est d'accord et ça part. OK? La deuxième raison. La deuxième raison pour laquelle on peut avoir recours à des ordonnances, c'est pour la rapidité. Et ça, c'est une raison plus politique que technique. C'est-à-dire qu'un gouvernement peut décider que c'est tellement urgent d'agir en matière de, qu'il va dire au Parlement, et c'est un peu facile de sa part, filez-moi le pouvoir d'écrire la loi, ça va aller plus vite avec moi, et ça va être plus rapide, et on va pouvoir faire entrer en vigueur beaucoup plus rapidement, et l'urgence, machin, etc. Par exemple, si une pandémie mondiale arrivait, par exemple, c'est un très bon exemple que tu donnes, pandémie mondiale, on n'a pas trop le temps là de faire des débats parlementaires à rallonge. Etc. Il faut prendre des mesures urgentes. Donc, le gouvernement, nous, en 2 jours, on peut vous pondre un truc machin. Donc, voilà. Laissez-nous faire le package. Vous le ratifiez à la fin. C'est bien une ordonnance. Mais on avance, quoi. Est-ce que ça se vote le recours à une ordonnance? Oui. Une ordonnance, ça doit être voté 2 fois. Une première fois, une habilitation à prendre une ordonnance, donc une autorisation. Nous, le Parlement, autorisons le gouvernement à écrire une loi. Puis, une loi de... Comment elle s'appelle? L'habilitation est là. Ratification? C'est une loi de ratification, tu crois? Je crois que c'est ratification. Oui, bah c'est ça. Oui, ça a du sens. Oui, on habilite puis on ratifie. Loi d'approbation? J'ai un doute. Pour l'aspect technique, les gars qui ont nommé au gouvernement auraient pu être au Parlement, je n'arrive pas à comprendre en quoi ils sont plus qualifiés. C'est pas une, non, c'est pas une question de qualification. Attention, c'est pas une question de qualification, c'est une question de niveau de détail du truc. Je vais essayer de te donner un exemple. En fait, c'est des trucs pas très importants qui font partie du truc. Je sais pas si. C'est comme si tu fais construire une maison, l'architecte il te demande bon vous voulez de quelle couleur les murs, tu dis bah moi je voudrais un blanc cassé, il dit ok, il te présente différents trucs, tu fais bon bah je prends celui-là, et le mec il dit ok mais alors après pour la couleur des plinthes et pour la couleur des bords de fenêtres et tout, et là tu lui dis non mais je vous fais confiance, je vous laisse faire, c'est plus technique, moi je vous dis l'idée globale que je veux c'est du blanc cassé, pour le truc technique etc. Merci Greentier pour les 5 subs offerts au chat, merci beaucoup Greentier.
Je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non. Mes affaires marchent en ce moment.
Merci à toi. Donc voilà ce que c'est qu'une ordonnance. C'est un élément souvent technique, parfois politique, et on parle beaucoup plus des ordonnances très politiques que des ordonnances très techniques. Si vraiment ça vous passionne, je vous invite à aller sur le site internet de l'Assemblée nationale pour checker le nombre d'ordonnances à la con qui font passer chaque année. Je dis ordonnances à la con, pardon pour le mépris, mais... La traduction en droit interne de l'accord international entre la France et le Canada sur les mesures de pêche à l'écrevisse au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est une ordonnance. Voilà, le Parlement a autre chose à foutre que de passer des plombes à discuter de ça. En plus, au demeurant, en général, c'est tellement technique qu'en réalité, il n'y aura pas vraiment des accords politiques. Hein. C'est bon, la ratification, c'est bon, on avance. Le mépris sera retenu. Oui, non, mais retenons le mépris, bien sûr. C'est important pour les concernés. Oui, et en général, les concernés, ils attendent plutôt une ordonnance qu'une loi parce qu'ils n'ont pas le temps, en fait. Ah non, désolé, c'est bloqué à Paris, on attend la loi de ratification. Ah non, mais putain, mais dépêchez-vous, bordel! Qu'est-ce que je fais avec mon bateau de pêcheur? Moi, je peux les ramasser, mes casiers à écrevisses ou pas? Merde! Hum... Est-ce que c'est un problème en soi le fait que la légitimité issue du suffrage universel direct s'affronte lui-même dans le cadre d'un président et de l'Assemblée nationale ? Aux États-Unis, c'est pas un souci, mais leur séparation des pouvoirs est beaucoup plus forte. Ouais, mais tu remarqueras qu'aux États-Unis, le président de la République n'est pas élu au suffrage universel direct. Sinon, Trump n'aurait pas pu être élu en 2016. Donc ça marche pas pareil. En France, effectivement, tu as raison de souligner un point très particulier de notre 5ème République, c'est que le suffrage universel direct élit et donne donc sa légitimité à deux corps différents, le président de la République d'un côté et l'Assemblée nationale de l'autre. Nous avons donc deux institutions qui peuvent toutes les deux se prévaloir de la confiance du suffrage universel direct. Et il n'y a pas plus puissant dans une démocratie que le suffrage universel direct. Et ces deux institutions sont le président de la République et l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est grave en soi ? Eh bien, c'est une bonne question. La question que tu poses, c'est une question fascinante. C'est une question hautement politique et sur laquelle on peut avoir des opinions très divergentes. En fait, c'est la question de la légitimité des cohabitations, la perte de la légitimité d'un côté entraîne-t-elle une perte de légitimité de l'autre ? Un président de la République qui perd une élection législative doit-il démissionner ? Éminemment politique, mais oui, éminemment politique. Est-ce que c'est la raison pour laquelle les parlementaires étaient contre l'élection au suffrage universel direct du président? Ça cassait le poids de l'Assemblée. Bien sûr, évidemment. Ah bah oui, évidemment. Ça, les parlementaires. Mais d'ailleurs, on va même plus loin que ça. C'est la raison pour laquelle De Gaulle n'est pas passé par le Parlement pour faire ratifier sa proposition de suffrage universel direct pour le président de la République, parce que le Parlement n'aurait jamais dit oui à ça. Mesdames et messieurs les parlementaires, bonjour. Je vous propose de perdre l'un de vos pouvoirs les plus importants. Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Ben non, évidemment, ils vont pas dire oui. On dirait de faire enculer. Ben voilà. Donc évidemment que De Gaulle, il a dit « Non mais je vais même pas m'emmerder, aller me prendre une tarte au Parlement, je vais passer par-dessus le Parlement, et puis je vais directement aller voir le peuple français, je vais leur proposer un référendum. » Oui, mais en général, c'est pas très légal, là, ce que vous faites. Oui, oh, 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 je suis général De Gaulle, moi. C'est ce que je veux. C'est à peu près comme ça que ça s'est passé, je vous la fais courte, hein. La loi, c'est moi. Oui, c'est ça. Bah, en l'occurrence, c'est la Constitution, c'est moi. D'ailleurs, alors je sais plus comment il s'appelait. À l'époque, donc là, ce que je suis en train de vous raconter, cette anecdote de 1962, c'est pas une anecdote, hein, c'est un moment assez important de l'histoire de la Ve République. On en discutait à l'époque. Il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord. Et il y avait une question qui était posée, qui était de dire est-ce que le général de Gaulle a violé la Constitution ? La Constitution de 1958, qui est la Constitution de la Ve République, qui est littéralement la création du général de Gaulle. Est-ce que de Gaulle a violé la Constitution ? Et ça, c'est un débat qui, encore aujourd'hui, etc., les constitutionnalistes en débattent encore aujourd'hui. Et à l'époque, il y avait je ne sais plus quel connard, constitutionnaliste, qui avait répondu en ricanant à une question, où on lui demandait ça. Il avait répondu « Mais enfin, on ne peut pas violer sa femme ». Je vous laisse ranger cette petite sortie dans les poubelles de l'histoire et de la misogynie des années 60. Mais c'était sa réponse. C'était « Mais enfin, le général de Gaulle violait la Constitution ? Mais enfin, il est la Constitution !» C'était sa manière à lui dire ça. Donc oui, il a vraiment dit ça. Je ne sais plus qui c'est qui avait dit ça. « On ne peut pas violer sa femme. » Connard. Le mieux pour vérifier, ce serait de faire un référendum pour revenir à l'élection comme avant 1962. Ah, bah ça, c'est une bonne proposition, tiens. De la même manière que si on demande au Parlement, « Dis donc, mon grand, est-ce que t'es chaud pour perdre un de tes pouvoirs ?» Le Parlement dira jamais oui. Vraie question, est-ce que vous pensez que le peuple français serait d'accord pour abandonner son pouvoir d'élire lui-même le président de la République ? Moi, je pense pas un quart de seconde. Si le référendum porte sur ça, les Français disent non, c'est mort. En revanche, si le référendum est posé différemment et que, en fait, c'est une 6e, 7e, 8e République, etc., et que c'est un package global dans lequel le peuple ne vote plus directement pour voter le président, mais élit des électeurs avec des contre-pouvoirs, des machins, etc., peut-être. Mais à mon avis, tu poses la question demain aux Français, ils te répondent c'est mort. Alors là. Avec quoi comme avantage, comme contrepartie? Eh ben, tu as parfaitement. C'est la bonne manière de poser la question. Effectivement, tu as raison. Vedet Lex, c'est exactement ça. Comment est-ce que tu. C'est quoi la contrepartie à ce recul démocratique qu'est la suppression du suffrage universel direct pour l'élection du président de la République? Qu'est-ce que tu offres en échange, etc. machin. Est-ce que le peuple français arrive encore à élire son président, un président sans majorité? Ben justement, c'est là que le peuple français a de l'humour. C'est que les Français sont capables. Mais ça, je vous l'ai déjà dit, hein. Les électeurs sont capables d'élire un mec président de la République et 3 semaines plus tard de pas lui donner de majorité. Voilà, ça s'appelle 2022, une belle année en politique en France. Pareil, hein, je vous avais déjà rappelé 1995, les Français ont le choix entre Jospin et Chirac, ils choisissent Chirac. 2 ans plus tard, ils choisissent Jospin. Et ben voilà. Fin de l'élection présidentielle au suffrage universel direct. Ah, moi je vote oui. Hein. Enfin, vous votez ce que vous voulez, hein, je veux pas influencer les votes. Le score de Macron à la présidentielle est proportionnel à celui qu'il a fait aux législatives, donc c'est raccord. Ouais! Ouais, je suis d'accord. Non, mais c'est là aussi. Je vous rappelle que pendant des années avant 2022, à l'époque, on discutait pendant des heures de est-ce qu'il vaut mieux un scrutin proportionnel ou un scrutin majoritaire? Aujourd'hui, on a un scrutin majoritaire aux législatives. Est-ce qu'on passerait pas à un scrutin proportionnel? Vous vous en souvenez, ça fait 8 ans que je fais des streams sur Internet, ça fait 8 ans qu'on parle de ce sujet, etc. Bah les Français, ils ont apporté la réponse. Ils ont dit, et si on gardait un scrutin majoritaire, mais qu'on lui donnait des résultats de proportionnel? Tadam! Est-ce que ça va pas ouvrir les portes au RN, ce fonctionnement à l'américaine? Qu'est-ce qu'il y a d'américain dans ce que je viens de te décrire? Parce que là, pour le coup, il n'y a rien d'américain. Hein. C'est bien français, hein, cette 5e République, là. Un petit parfum de parlementarisme rationalisé sur fond d'autoritarisme. Y a-t-il une différence de procédure entre modifier la constitution de la 5e République et adopter une nouvelle constitution? Non, il n'y a pas de différence de procédure. Il n'existe pas de procédure pour passer à une nouvelle République, pour la simple et bonne raison que toute modification de la Constitution est une nouvelle République. C'est pour ça que parfois je m'amuse, 6e République, 7e, 8e, République 5.2, 5.3, 5.4. En fait, c'est à moitié une blague parce que si vous y réfléchissez bien, d'ailleurs, c'était un exposé que j'avais fait quand j'étais étudiant en droit. Un chargé de TD m'avait demandé de faire un exposé sur le thème de la question de l'exposé, c'était après 50 ans de modification constitutionnelle, sommes-nous arrivés à une 6e République? Et c'était un titre provoque, et en fait la réponse c'est on s'en branle. On s'en branle de compter les républiques, c'est pas important. Parce que si vous regardez bien les équilibres de 1958, dès l'instant où en 1962, donc 4 ans plus tard seulement, vous passez à l'élection du président de la République au suffrage universel direct, bah, vous passez déjà dans une sixième République. On est déjà dans une sixième République depuis 1962. Et après, vous continuez. Il y a d'autres modifications constitutionnelles qui sont venues changer la donne. Le traité de Maastricht en 92, c'est en soi une nouvelle République. Le quinquennat en 2000, c'est donc 5e, 6e, 7e, 8e République. En 2008, on est passé dans la 9e République. Donc voilà. CDDLC, bah. Bref, tout ça pour dire que ce qui compte, c'est pas le numéro que vous mettez devant votre République. Ce qui compte, c'est l'équilibre politique et la philosophie politique que vous mettez derrière. Mais encore une fois, cette blague sur les itérations de développeurs, télécharger la version bêta, la version release, la version 1, la version 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.2.1, etc., etc. Ce système d'itération, bah, en fait, il est aussi un peu valable en matière de droit constitutionnel, parce que qu'est-ce qui justifie qu'on change le numéro de la République si c'est un changement profond de régime politique? Bah, à ce moment-là, 62, ça peut justifier le fait qu'on soit déjà en 6e République. Ou alors on dit que bah non, du coup, c'est une itération différente qui fait qu'on joue très différemment, mais en réalité, c'est le même jeu. Parce qu'en fait, on n'a pas changé de République, c'est toujours la même, c'est juste un référendum, on n'a pas réécrit la Constitution. Donc vous voyez? Bon, donc moi, ça ne me passionne pas beaucoup, hein, ces discussions de numéro de République. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a écrit dedans. Et c'est ça qui est chouette. À quand la réécriture complète du code? Mais si on réécrit complètement le code, on va pas changer tout le code, il y a plein de trucs qu'on va garder, hein. De la même manière, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure en droit comparé, c'est pas parce qu'on... Enfin, on peut pas faire abstraction de notre histoire. Toutes les républiques de l'histoire de France ont toujours été des leçons tirées du passé et des choses qu'on a voulu éviter. Toutes les républiques. L'échec de la monarchie constitutionnelle. La Première République. Bon, bah, on s'est dit, ok, on s'est fait trahir par le roi, là, qui s'est barré, qui a été arrêté à Varennes. Bon, bah, on va pas refaire, on va pas remettre un roi, on a bien compris, on s'est fait arnaquer, donc on passe à autre chose. Donc, c'est partant de ce truc-là qu'on a mis en place un nouveau truc. Ensuite, on a créé la Convention. La Convention, bon, c'était monocaméral, c'était un peu le bordel, donc du coup, on a compris, on s'est dit, ok, on va passer à un triumvirat. Le triumvirat, bon, il y a un petit Napoléon qui a pris le pouvoir, on s'est dit, bon, d'accord, en fait, c'est n'importe quoi, donc on va laisser tomber. Ensuite, on a essayé l'Empire, on a vu ce que ça a donné. Ensuite, on a essayé la Seconde République, la Révolution 1830, puis on est passé à 1848. Entre-temps, il y a eu une restauration, et puis en fait, les monarchistes eux-mêmes, ils ont évolué parce qu'eux aussi, ils se sont dit, mais en fait, on peut pas remettre un Bourbon sur le trône, donc on va mettre un Orléanais qui est un roi libéral qui respecte le Parlement. Et puis en fait, finalement, Napoléon III revient, et puis du coup, il invente le bonapartisme. Et puis l'histoire, ça sert à ça. Ça sert à ne pas refaire les erreurs du passé, à améliorer, etc. Donc, de la même manière que la 5e République est née sur les cendres d'une 4e République à laquelle les gaullistes reprochaient son instabilité, et ben la 6e République naîtra sur les cendres d'une 5e République à laquelle je sais pas qui reprochera probablement un parlementarisme, un présidentialisme trop fort, une absence de responsabilité politique du président de la République, un manque de démocratie, etc., etc., etc. Donc mais on peut pas faire abstraction. Le fameux faisons table rase du passé, en fait, ça n'a jamais eu lieu. Personne n'a jamais fait table rase du passé, c'est pas vrai? T'as oublié le directoire. Oui, pardon, j'ai dit triumvirat. Mais oui, c'était un directoire. Du passé, faisons table en marbre. Pourquoi forcément une république? On a plein d'autres possibilités. On attend le retour de Napoléon. Bah écoute, bon courage pour pas t'emmerder dans la salle d'attente, mais je suis pas sûr que tu, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde dans ta salle d'attente, mais c'est très bien si t'attends le retour de Napoléon. Et oui, tu as raison, pourquoi une république? Là aussi, pourquoi une république? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un roi? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un dictateur? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un... Je sais pas, moi. Bah, il y a plein de gens, ça fait des années, ça je vais pas vous l'apprendre, hein. Il y a quand même plein de gens qui théorisent depuis des années d'autres manières de penser, d'autres manières de faire et tout, et pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas une junte militaire qui dirige le pays? Ah, ça, autant vous dire que ça filerait droit, hein. Attention. Potichat, empereur des Français. Pourquoi deux tours et pas trois tours ou plus? Eh ben, c'est une très bonne question. Alors, d'ailleurs, vous savez que l'élection présidentielle, on dit toujours qu'il y a deux tours. Mais vous savez que c'est pas automatique. Pourquoi il y aurait deux tours? Il n'y a pas deux tours à la présidentielle. C'est pas vrai. Il y a un seul tour à la présidentielle. On organise un second tour que si aucun candidat du premier tour n'a obtenu la majorité absolue. On a passé les 17 000 balles, merci beaucoup, bravo! Allez, on fait la teuf pour la peine. Allez, on se le remet. Ça suffit, calmez-vous, calmez-vous. On est là pour parler de droit constitutionnel, on est des gens sérieux, on est respectueux des dorures de la République. La politique, c'est quelque chose de sérieux, c'est pas pour les jeunes complètement demeurés. Pardon. Qu'est-ce qu'on disait? Bref, merci. Non, en vrai, merci du fond du cœur. On a atteint le palier des 17 000 euros mensuels de financement pour Baxit. Je vous rappelle que l'objectif global, c'est 30 000 euros. Quand on réussira à avoir 30 000 euros par mois de financement pour Baxit, alors on aura de quoi faire une émission par semaine pendant le nombre de saisons qu'on a envie de faire. Et c'est ça le but du jeu. Merci. Vous aussi, rejoignez les financeurs de Baxit. Point d'exclamation kiss kiss dans le chat. Pour faire partie du club Baxit et bénéficier de tous les avantages qui permettent de financer l'émission. Donc, je vous disais, oui, deux tours d'élection pour le scrutin du président de la République. Donc, l'élection du président de la République en France, c'est un scrutin majoritaire, uninominal, à deux tours, mais à deux tours seulement si, dès le premier tour, on n'a pas un président. Qu'est-ce qui se passe si vous avez une élection présidentielle avec 11, 12 candidats? Et les Français votent au premier tour. Et au premier tour, il y en a un qui fait plus de 50% des voix. Est-ce qu'on fait un second tour? Ben non, il n'y a pas besoin. Le peuple français vient de décider. À la majorité, il a élu un président de la République. Félicitations, bravo à lui. Pas la peine de faire un second tour. Tac, 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 tac. D'ailleurs, 1962, Charles de Gaulle fait voter les Français par référendum et ils choisissent donc d'organiser l'élection présidentielle au suffrage universel direct. De Gaulle est évidemment candidat, faut pas déconner. Et De Gaulle, dans sa tête, il se dit: mais t'inquiète, c'est plié. Va pas faire de second tour. Je suis large! Je suis De Gaulle. Je viens de gagner triomphalement un référendum. Les Français, ils vont m'élire dès le premier tour. 1964, l'élection présidentielle arrive. Bam, il y a un second tour qui est organisé. Il paraît que De Gaulle n'était pas content du tout. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout. Évidemment qu'il a été élu après le second tour. Il a fait que 44%. Oh! Ça veut dire qu'il y a 66% des électeurs qui ont voté pour quelqu'un d'autre que lui. Pardon, excusez-moi. Les maths, c'est pas une science exacte. 56%. Donc, voilà, donc Mitterrand se qualifie au second tour face à De Gaulle. De Gaulle est furieux, mais furieux. Et il est quand même élu. Mais il a très très mal pris, hein. Ouh, il était pas content. Et puis Mitterrand, en plus Mitterrand. Le péril rouge.
Mélonus, Maximus, Proximus de Gaulus.
C'est ça.
C'est pour des histoires de seeding. Oui, c'était pour des histoires de seeding, effectivement. Donc, bref. Donc voilà, qu'est-ce qu'on retient de tout ce que je viens de vous dire? Les constitutions sont contextuellement liées à un pays, à une nation, à une histoire, à un contexte politique, culturel, économique, religieux aussi, etc. Non, on ne peut pas copier un modèle qu'on aime bien dans un pays, dans un autre, en se disant bah, ça va marcher aussi bien parce que ça ne fonctionne pas comme ça. C'est plus subtil, plus complexe et plus intéressant que ça. Tac, 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 tac. Et l'histoire n'est pas finie. La fin de l'histoire, ça n'existe pas, je vous rappelle. Voilà, l'histoire continue à s'écrire. On verra dans quoi on se dirige, j'en sais rien, on verra bien. Les dictatures, globalement, ça marche partout. Ah, d'un point de vue efficacité, ça file droit, hein. C'est pour ça que je vous dis toujours, quand on dit ça marche ou ça marche pas en politique, j'ai toujours envie de vous dire, mais de quoi on parle? Sur quels critères? Techniquement, d'un point de vue industriel, bon, bah le stalinisme, ça marchait assez bien, voilà. Si vous regardez l'accroissement de la production industrielle de l'URSS, bon, pas mal, hein, en vrai. Bon, le fait est que c'était quand même des gens esclavagisés dans des goulags qui faisaient l'extraction du charbon et tout. Mais, ceci étant mis de côté, arrêtez, arrêtez avec votre droit de l'hommisme là, merde. On fait du business ici. On regarde d'un point de vue industriel. Staline. C'est cool. Voilà, c'est évident. Donc voilà, c'est cette petite caricature qui est un très bon exemple de quoi on parle en fait. L'Allemagne nazie, belle croissance industrielle. Non, mais c'est ça, l'Allemagne nazie. Tiens, c'est l'historien Johann Chapoutot qui rappelle toujours ça, qui dit, mais vous savez, les nazis dans les années 20 et dans les années 30, ils étaient assez bien vus par les bourgeoisies des autres pays européens. Le nazisme, pour le business, c'est plutôt pas mal, hein. Il y a des marchés publics, il y a du fric à se faire, il y a de l'industrialisation, il n'y a pas de communistes. En vrai. Tu vois? Donc mais c'est intéressant, tu vois, de se dire, mais en fait, tu te mets à la place de. Ça dépend qui juge et sur quels critères. Les gens, ils trouvent que c'est très bien. En vrai, non, ça marche bien. Mieux vaut Hitler que le Front Populaire. Voilà, c'était la fameuse phrase. Le Front Populaire, en France, donc il y avait le Front Populaire, Léon Blum et tout. Là, attends, les mecs, ils font les congés payés, augmentation de salaire, réduction du temps de travail. Donc ça, c'est les Français. Il y a des syndicats partout, les mecs font grève. Et en face, en Allemagne. Les grèves sont interdites, les communistes sont pourchassés, il y a du pognon partout, il y a des usines qui ouvrent en permanence. En termes d'investissement, si t'as le choix, l'Allemagne c'est mieux que la France. Voilà. Mais ça, c'est cette phrase-là, elle est très concrète pour plein de gens. Donc voilà. Donc ce sont des exemples caricaturaux tirés de l'histoire qui mènent toujours à dire de quoi on parle quand on parle d'un système politique qui marche ou qui ne marche pas. Sur la base de quels critères est-ce qu'on juge? Sur la base de qu'est-ce qu'on valorise comme critère de fonctionnement? Hop. Je n'habite plus en France depuis 10 ans, mais quelle partie est plutôt portée vers l'écologie? Je vais être très chiant, mais je vais te dire, ça dépend ce que tu appelles écologie, toi, et ça dépend ce que tu appelles être porté sur. Donc je ne saurais pas t'aider. Oh le relou. Ouais, t'as vu, c'est chiant comme réponse. C'est vraiment une réponse de Normand, ça. Bah, ça dépend. Ça dépend. Non, mais je sais pas quel parti est le plus porté sur l'écologie. Ils le sont un peu tous aujourd'hui. Mais après, ça dépend de tes critères à toi de préférence. Moi, je te connais pas, je sais pas qui t'es, je sais pas. Niveau nucléaire, t'es comment toi? T'es plutôt on maintient, on soutient, on développe et on renforce la filière nucléaire ou t'es plutôt on ferme les centrales nucléaires les unes après les autres et on met des hydroliennes en croisant les doigts très fort pour que ça remplace la production électrique? Je sais pas. Rien à voir, mais est-ce que t'étais au GP Explorer? Me semble t'avoir croisé le lendemain à la gare du Mans. Oui, c'était moi. Avec ma gueule de bois, c'était moi. J'étais au GP Explorer, ouais. Même le RN et Reconquête, t'es sûr tous? Alors, le RN et Reconquête parlent pas énormément d'écologie, en tout cas, le RN et Reconquête mettent en avant la préservation du patrimoine, y compris du patrimoine naturel. Donc en gros, et je ne défends pas leur position, mais c'est leur manière à eux de le dire, pour eux, faire de l'écologie, c'est ne pas mettre d'éoliennes pour préserver la beauté des paysages. Voilà. C'est ça l'écologie pour eux. Et ils sont pro-nucléaires par ailleurs. Oui, sur la question énergétique, ils sont pro-nucléaires. Et en même temps, à part les écolos et les insoumis, tout le monde est pro-nucléaire, hein, dans la classe politique. Et le PS? Bah, le PS, si, le PS est pro-nucléaire. Enfin, le PS est pro-nucléaire. Oui, non, t'as raison. Dans le cadre de l'accord électoral de 2012, le PS et les écolos se sont mis d'accord sur une sortie programmée à terme du nucléaire au fur et à mesure que les énergies renouvelables remplaceront l'énergie produite. C'était ça le deal de 2012. Alors après, est-ce que le PS d'aujourd'hui est toujours sur ce deal-là? Bonne question. Le PCF, ils ont une position sur l'écologie où ils sont plus axés sur le productivisme. Non, non, si, 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 le PCF a une position sur l'écologie, hein, ça clairement. Ils ont une position sur la transition écologique, dans le maintien de la justice sociale, contre le fait que ça pèse sur les foyers les plus pauvres et sur les gens qui sont forcés de prendre leur bagnole. Ils sont pas des décroissantistes, mais ils sont plus productivistes à la papa, tendance comme les Stahl des années 50, qui étaient en mode il faut multiplier par deux le nombre d'usines. Plus il y a de cheminées qui crachent du charbon, mieux c'est. Non, ils ont changé les communistes depuis le temps quand même. Mais par contre, ils sont pour le nucléaire, ouais. Pour le coup, les communistes, c'est probablement les plus proches de Jean Covici, je pense, dans la manière de penser la filière nucléaire. Fort investissement de l'État, nationalisation de ce qui doit l'être. On ne peut pas laisser au marché un truc comme la filière nucléaire. Donc, la nationalisation d'EDF, ils sont pour, ils étaient pour, ils ont voté pour, ils sont pour. Structuration et planification nucléaire. Ouais, non, pour le coup. Plus vraiment à la mode Georges Marchais, alors. Non, non, plus vraiment. Pourtant, dans le classement des programmes par The Shift Project, le PCF n'était pas tout en haut. Ah ouais? C'est possible, je sais pas. Comment tu présenterais les bases de la politique à un enfant de 14 ans, droite, gauche, les partis? Ça dépend ce que j'essaierai de lui présenter. La politique, ça veut dire quoi? Je dirais que la politique, c'est un champ dont il va entendre parler souvent, qui existe et qui fait partie du paysage. Il n'est pas obligé de l'aimer. La politique n'a pas vocation à être aimable. La politique n'a rien à te vendre. La politique, c'est pas sexy. La politique, c'est pas fun, etc. Mais la politique, dans le cadre d'un débat public en démocratie, se montre au public à travers des options politiques présentées, portées par des personnages politiques qui sont des candidats à des élections, qui sont des élus, qui sont des dirigeants politiques. Et que ces options s'organisent dans un champ politique qu'on appelle traditionnellement un champ qui va de la droite à la gauche. Tout le monde n'est pas d'accord sur la définition de la droite et de la gauche, mais ça permet quand même d'avoir une bonne approximation de manière globale des différents camps politiques. Tu l'as perdu. Mais non, je l'ai pas perdu. Là, il m'écoute, le jeune de 14 ans. Putain, mais vous êtes relou. Ah, mais commencez pas à prendre les jeunes de 14 ans pour des cons, ça va m'énerver. Aucun parti n'a une ligne proche de celle du GIEC, à savoir nucléaire comme énergie de transition, le temps que les ENR atteignent la maturité. Bah si, le Parti Socialiste. Je suis prof à des jeunes de 14 ans, tu les as perdus. Bah, je sais pas, tu fais comment toi comme tes profs? Le GIEC n'a pas de position d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, le GIEC n'a pas de position. C'est vrai. Justement, j'attendais ta réponse. T'es chiant. Eh ben, je sais pas, je lui dirais. Il y a des gens qui se, il y a des gens qui se révèlent de la droite, des gens qui se révèlent de la gauche. Ce sont des gens qui présentent des candidats à des élections en essayant de séduire les autres, et que la droite et la gauche, c'est des espaces de cohérence intellectuelle. Putain, là, je l'ai perdu, l'ado. Je suis d'accord avec toi. Non, non, je suis d'accord avec toi. Je suis insupportable. Je dirais qu'à gauche, la gauche est un ensemble de personnes qui partagent des valeurs de solidarité. D'égalité, qui essaye de mettre en avant un modèle plus basé sur le partage et sur la réduction des injustices et des inégalités, et que la droite va davantage être partant sur des idées qui mettent en avant la responsabilité individuelle, l'autorité, la liberté individuelle. Voilà, c'est la version enfantine d'une présentation à la Schlag. Un paysage politique qui est beaucoup plus subtil que ça, mais quand il faut faire simple, j'essaye quoi. C'est pas un peu trop manichéen? Bah si, mais c'est un peu le problème, c'est que c'est le plus facile en fait pour un jeune de 14 ans de faire du manichéen. On va faire simple, hein, on va pas. Si je commence à rentrer dans le détail des subtilités. La droite, c'est aussi produire pour pouvoir redistribuer. Ça dépend de la droite. Là aussi, mais c'est ça le problème, c'est qu'à partir du moment où on va rentrer dans la discussion, on va se rendre compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais oui, il y a plusieurs droites. Oui, il y a plusieurs gauches aussi. Ça, à mon avis, le jeune de 14 ans, il va pas tarder à s'en rendre compte. Je lui dirais, tu connais Twitter.com? N'hésite pas. Tu vas découvrir plusieurs facettes de la gauche. Avec les collégiens, faut simplifier à outrance. Si tu mets des oui mais, tu les perds. Oui, non, mais voilà, c'est ça. Faut simplifier, faut assumer de simplifier. C'est pas grave de simplifier, c'est normal. Donc tu simplifies à outrance et tu leur répètes surtout que les partis politiques ne sont rien d'autre que des associations qui présentent des candidats à des élections et que ce sont les électeurs qui choisissent in fine qui c'est qui dirige et que personne n'a raison. Personne n'a raison. D'ailleurs, la politique n'est pas un débat sur le réel et sur les faits. C'est un débat sur le souhaitable, sur le possible. Et sur l'articulation de la méthode pour tout ça. Voilà, donc tu lui dis, en fait, ce sont des gens qui proposent, qui ont des clés de lecture du monde qui sont différentes les unes des autres, qui ont des chemins proposés différents, des caps proposés différents, des méthodes proposées différentes, qui essayent de séduire les électeurs pour obtenir des voix, de manière à prendre le pouvoir et à appliquer ce programme. Voilà. Personne n'a raison, mais certains ont tort. Notre prof nous a dit quand j'étais jeune, droite c'est tout pour le business et c'est individuel, mais gauche c'est le fait de prendre en compte l'humain et les intérêts de tout le monde avant soi. Dis-moi, ton prof, il était pas un peu de gauche? Ah non, mais après l'électorat enseignant, hein. Mitterrand, à jamais dans nos cœurs. Moi, parce que t'as l'autre version. Moi, je connais des gens qui vont dire: non, mais attends, écoute-moi, gamin. Pas compliqué. Pas compliqué. La droite, c'est les gens qui ont les deux pieds sur terre et qui savent comment ça marche l'économie. Ok? La gauche, c'est des doux rêveurs, fumeurs de ouinges qui comprennent que dalle et qui font des doux rêves d'un monde idéal où tout le monde il est gentil. Voilà. Bon, on va simplifier parce que t'es jeune. La droite, c'est ceux qui ont raison. La gauche, c'est ceux qui ont tort. Ça va pour toi, gamin? T'as compris? Voilà. C'est pas une blague, hein. J'ai vraiment déjà entendu des gens dire ça. Et ils ont le droit de penser ça. Ils ont le droit de penser ça. J'ai aucun problème. Je m'en fous. C'est une opinion politique. Le camp d'en face, ils ont rien compris. Eh bah, ok. C'est ce que je te dis. D'accord? C'est ta manière de voir les choses. Tonton Roger, c'est toi. La droite, c'est les bosseurs, la gauche, c'est les flemmards. Exactement. Merci pour tes réponses, je trouve ça si complexe de vulgariser. Ah non, mais c'est galère de vulgariser. Hein. D'ailleurs, j'ai même pas la prétention d'y arriver mieux que quelqu'un d'autre. Hein. Je fais ce que je peux. Mais oui, c'est difficile de vulgariser un truc aussi subtil que la politique. Et en même temps, c'est ce que je trouve le plus passionnant, et c'est pour ça que j'aime la politique, même si cette phrase ne veut rien dire, c'est que la politique, en politique, l'objet même politique est un débat politique, est un objet de débat politique. En démocratie, la démocratie est un sujet de débat démocratique. Et cette phrase est... Moi, je trouve ça chouette. C'est le truc qui s'interroge sur lui-même. Donc, en démocratie, on n'a pas tous la même vision de ce qu'est et de ce que devrait être la politique. Eh bah, ben, trop bien. Et personne n'est obligé d'être d'accord avec moi. Hein. T'es plutôt république ou démocratie? Ah, parce que t'opposes les deux, toi? C'est raide quand même. Ouais, je suis obligé de choisir. Genre, j'ai un flingue sur la tempe. Comment peut-on faire confiance à la politique quand la majorité de leurs décisions a pour objectif de cibler un électorat pour gagner des voix? Alors, tu n'as pas à faire confiance à la politique. La politique ne requiert pas ta confiance. Politique, elle se moque de toi, elle se moque de moi, elle se moque de notre existence. La politique, elle existe. La politique, c'est la gestion du pouvoir. D'accord? En démocratie, dans le champ politique, il y a des candidats qui essaient de se présenter à des élections pour appliquer. Pour porter des changements ou de la conservation de certains trucs, etc. Tu n'es pas obligé de leur faire confiance. Un vote n'est jamais un blanc-seing. Et ça, c'est un truc que je défends toujours et que je défendrai toujours. C'est pas parce que vous votez pour un candidat que vous êtes d'accord avec l'intégralité de ce qu'il propose et que vous allez être d'accord, ou encore pire, que vous auriez l'obligation d'être d'accord avec tout ce qu'il va faire. Pas du tout. Pas du tout. Vous avez le droit de voter pour un candidat parce que vous estimez que là, dans le contexte, c'est celui qui a votre préférence. Et une préférence, ce n'est pas une adhésion, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas du fanatisme, ce n'est pas de... Non, c'est pas un absolu. Ça peut être simplement, ça peut être le moins pire. Ça peut être celui qui a les meilleures propositions dans un domaine qui, toi, te tient à cœur, etc., etc., etc. Alors après, est-ce que tu dis que la majorité de leurs décisions a pour objectif de cibler un électoral pour gagner des voix? Tu poses la question du cynisme. Est-ce que les hommes et les femmes politiques sont des êtres de cynisme qui n'ont comme seule boussole que leur intérêt personnel et la conservation du pouvoir, la conquête puis la conservation du pouvoir? Là aussi, on peut ne pas être d'accord avec cette vision-là. On peut voir dans la politique des gens qui ont effectivement un égoïsme et une quête du pouvoir, etc. On peut aussi voir des gens qui cherchent pas le pouvoir pour lui-même, mais pour changer les choses. Donc c'est la question de la différence entre celui qui veut changer les choses et celui qui veut juste avoir du pouvoir. Qui suis-je pour dire quelle politique et qui là-dedans? Moi, il y a des gens avec qui je suis en désaccord politique. J'ai l'impression que tout ce qu'ils veulent, c'est du pouvoir. Et qu'ils ont aucun. Et qu'ils veulent pas le bien des gens, etc. Machin. Oui, mais ça, c'est parce que je suis en désaccord politique que je dis ça. Eux, de leur côté, ils me regardent moi en me disant, ah bah voilà, ça, de toute façon, ça, c'est des gens qui courent qu'après les élections, ils sont démagogues, ils veulent juste séduire bassement la population en leur disant n'importe quoi, ils en ont rien à foutre du réel, etc. Machin. Voilà. Bah, lui, il a exactement le même point de vue sur moi que moi j'ai sur lui. Et ils sont pas obligés de voir chez moi un être de lumière, de bienfaisance et d'abnégation totale, etc. Parce que c'est ça aussi qui est subtil en politique, c'est que parfois, une même personne peut être les deux à la fois. Parfois, il y a des gens qui sont un peu des cyniques et calculateurs qui essaient de se placer, mais s'ils le font, c'est parce qu'ils croient dur comme fer en leurs idées et qu'ils veulent arriver au pouvoir, non pas pour être au pouvoir, mais pour changer les choses parce qu'ils y croient vraiment. Et je ne vous dis pas ça en vous disant que tous les politiques sont comme ça. Il y a aussi sûrement des politiques qui se foutent totalement de l'intérêt général et qui veulent que avoir du pouvoir. Je ne vois pas très bien l'intérêt, mais ok. Tu as aussi le fait que tu puisses être démagogue pour faire des choses que tu estimes nécessaires, bénéfiques. Absolument. Et ça, c'est une question éthique, pour le coup, que je trouve intéressante. Quelle dose de cynisme peut-on autoriser à un politique qui ne le fait pas pour le plaisir du cynisme, mais à des fins beaucoup plus nobles? Nelson Mandela a-t-il le droit de faire des petits calculs un peu nazes pour se garantir une élection au président de la République d'Afrique du Sud et mettre fin à l'apartheid? Peut-on être un peu médiocre dans la tactique, la stratégie, pour mettre en place quelque chose de formidable que tout le monde il aime, etc. Elle est pas facile celle-là. La fin justifie-t-elle les moyens? La fin justifie-t-elle les moyens? Les insoumis doivent-ils faire front avec le Rassemblement national contre le gouvernement? Ça fait partie de ces sujets. Lincoln, très bon exemple. Vous avez vu le film Lincoln? Film Lincoln qui vous raconte l'histoire de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Si vous croyez que l'abolition de l'esclavage a été obtenue par des grands et beaux discours de Lincoln, vous vous trompez et je vous invite à voir ce film. Oh putain. Oh, de la petite strate d'enculé, il y en a eu, hein. Ça a été du filou. Celui où il tue les vampires? Non, l'autre. Non, pas le Lincoln avec les vampires, l'autre. Voilà. Ce chat de cinéphile. Chirac sur le bruit et l'auteur pour flatter le FN. Exactement. La petite phrase de merde en meeting pour flatter ton électorat là qui est en train de gueuler. Bon, dans quelle mesure tu te l'autorises celle-là? Dans quelle mesure c'est petit, c'est nul, c'est intolérable? Et dans quelle mesure tu dis oui, bon, bah attends, ils ont envie d'entendre ça, on va le dire. Est-ce que faire usage de fausseté pour une cause légitime n'amène-t-elle pas à un succès que court-termiste ? Eh bien, c'est le risque. Quel prix es-tu prêt à payer pour parvenir à tes fins politiquement ? Parvenir à tes fins, attention, dans mon esprit, ce n'est pas nécessairement quelque chose de cynique. Ça peut être quelque chose de pour le grand soir, la révolution, un monde meilleur, etc. Une fin peut-être tout à fait légitime et souhaitable, etc. Hollande avec mon ennemi, c'est la finance. Mon adversaire, c'est le monde de la finance. La célèbre phrase de François Hollande. Bon, il avait une version très, très à lui de s'opposer à la finance une fois qu'il était au pouvoir. Mais pareil, Mitterrand avec le coup d'État permanent, hein. Après, ça dépend. Les gros cyniques qui ont gagné, genre Drey, ils ont eu une aura positive pendant des années. Julien Drey, ça remonte à quand la dernière fois qu'il a gagné une élection, Julien Drey, hein. Aujourd'hui, être pote de François Hollande en politique, t'es pas là. Beaucoup de respect pour Julien Drey, pour son parcours, etc. Mais enfin bon, le mec a jamais été ministre, il a jamais dirigé une... Si, il a été vice-président de la région Île-de-France avec Polochon à l'époque. Bon, puis il a fini par se faire virer... suite à un scandale. Bon. Je te trouve assez injuste vis-à-vis de Hollande. De toutes les façons, on ne saura jamais quelle aurait été sa politique, vu qu'à cause des frondeurs, il n'avait pas de majorité au sein de sa propre majorité. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Après, c'est le paradoxe aussi un peu du truc, c'est que dans quelle mesure est-ce que c'est Hollande qui est responsable de la fronde et dans quelle mesure est-ce que c'est la fronde qui est responsable de la fronde, tu vois? Les frondeurs, ils ont pas pop du néant. Non, non, ils ont pas pop du néant du tout. Pourquoi être cynique si la proposition plaît à tout le monde? Question philo. Est-ce que c'est parce qu'une décision plaît à tout le monde que c'est une bonne décision? Blague à part, la question que je viens de poser, c'est une question qui a beaucoup hanté Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau a fait tout un travail philosophique, ça lui a beaucoup travaillé le ciboulot, la question de la qualité intrinsèque d'une loi. Existe-t-il des lois bonnes par nature? Absolument bonnes, nécessairement bonnes, éternellement bonnes. Est-ce qu'un tyran peut prendre une bonne décision? Est-ce qu'une décision unanime peut être une mauvaise décision? Et comment tu quantifies ça? Et ça, c'est la deuxième question. Est-ce que c'est l'histoire qui revient sur rétrospectivement et qui machin? Est-ce que c'est l'histoire qui juge? Est-ce que c'est des principes moraux supérieurs qui jugent? Est-ce que c'est l'expression de la volonté populaire qui juge? Auquel cas, bah oui, c'est une bonne décision puisque c'est la nôtre. Intéressant. Une bonne décision est-elle forcément démocratique? Et une démocratie ne peut-elle prendre que des bonnes décisions? Et ça, ces questions-là, Jean-Jacques Rousseau, il s'est un peu arraché les cheveux. Et lui, il en venait à la conclusion qu'il y avait une qualité intrinsèque aux lois, ouais. Ouais, ouais. Lui pensait qu'un tyran pouvait prendre de bonnes décisions. Que c'était pas son inclinaison naturelle, mais qu'il était possible qu'un tyran prenne de bonnes décisions. L'histoire juge, l'utilisation du charbon et du pétrole a créé la révolution que l'on connaît mais entraîne la Terre vers sa mort. C'est un bon exemple, c'est la question de la quantité d'informations disponibles à l'instant T. Les gouvernants prennent-ils des bonnes décisions compte tenu du nombre d'informations qu'ils ont en leur possession? Peut-on tenir responsable un politique pour avoir pris des décisions en vertu d'informations qu'il n'avait pas sur l'instant? Ou pire, peut-on le tenir responsable en vertu d'informations qu'il aurait pu avoir, mais qu'à l'époque, personne ne regardait parce que personne ne regardait jamais ces décisions-là, ces trucs-là. Donc, tu as la campagne des trois nuisibles de Mao Tse-tung, tu as la question du charbon et du pétrole, c'est un autre exemple, tu as plein de questions. Napoléon tyran, pourtant le code civil, c'est pas mal. Bah oui, c'est normal, c'est parce que c'est pas Napoléon le code civil. Napoléon, c'est celui qui a fini par le ratifier, mais le code civil, c'est le projet d'unification du droit civil, de Portalis et de plein d'autres avant lui. Code civil, c'est le parachèvement de l'idéal révolutionnaire. Quatre nuisibles. Oui, les quatre nuisibles, pardon. Ça s'appelle pas le code Napoléon? Si, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque. « 51% des cannibales élisent un président et une assemblée de cannibales qui décident de bouffer les gens qui sont pas cannibales. Est-ce que c'est une bonne décision ou pas ?» Tu rigoles, mais la question du cannibalisme, c'est une question qui avait été posée par... Merde. Triste Tropique. L'ethnologue. Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss qui avait dit « Si tout se vaut, alors l'anthropophagie est une affaire de goût. » Je crois qu'il avait dit ça d'une manière ou d'une autre. Après tout, si tout se vaut, si tout est égal à tout, et si tout le monde peut prendre toute décision, alors techniquement, les anthropophages, ils ont juste des goûts différents des miens, quoi. On peut discuter de la cuisson et de l'assaisonnement. Mais est-ce que c'est ça le problème? Après tout, voilà, les pédophiles, c'est une orientation sexuelle comme une autre. Si tout se vaut, alors voilà quoi. Et donc c'est tout le problème effectivement, c'est l'ironie de la question de la valeur d'une option en politique. Est-ce que sous prétexte qu'elle est populaire, ou quand même elle est populaire, elle est défendue légitimement et de bonne foi par une partie de la population, alors est-ce que tout est possible? Et c'est une question profonde qui agite quand même pas mal l'imaginaire européen depuis la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale a quand même été un effondrement moral, politique, philosophique de l'ensemble de l'Europe autour de la question de la toute-puissance de l'État-nation. L'État est-il le plus à même de défendre les droits de l'homme? Bah, un petit moustachu nous a démontré que non. Dès lors que la puissance de l'État n'est pas mise au service de la protection des droits, mais de l'oppression d'une minorité, c'est pour ça qu'on a inventé la justice internationale, c'est pour ça qu'on a prescrit universellement la torture, etc. C'est pour ça les déclarations universelles des droits de l'homme diverses et variées. Je vous prescris la torture matin, midi et soir. C'est con. Si t'avais la possibilité de devenir président de la République avec l'accord de la population, ah bah encore heureux. Parce que moi, devenir président sans l'accord de la population, je veux rien faire. Pourquoi pas? Eh bah, j'espère que la population et moi serons d'accord sur un point central de mon programme, qui est qu'il ne faut surtout pas me mettre président de la République. Donc il y a bien un socle universel de décision prise, il y a un bien-être qui est inhérent à l'être humain et pas à son orientation politique. Et ça, c'est une décision. Le caractère universel de la condition humaine et les droits qui lui sont inhérent, c'est une décision. C'est la proclamation de la Déclaration universelle des droits de l'homme sous l'égide des Nations Unies après la Seconde Guerre mondiale, etc. Tout être humain, partout à la surface de la planète, quelle que soit sa nationalité, son genre, son âge et tout, partage la condition humaine, et c'est parce qu'il partage la condition humaine que, et là t'as une série de droits, il ne peut pas être torturé, il ne peut pas être esclavagisé, il ne peut pas machin, etc. Ça, ce sont des, c'est une proclamation de droits, mais ça, c'est une décision. Et par le passé, d'autres décisions ont été prises qui n'allaient pas tout à fait dans ce sens-là, si vous voyez ce que je veux dire. C'est le juste naturalisme, c'est une partie du juste naturalisme, oui. Droit naturel moderne. Juste naturalisme, c'est un mot technique de philosophie et d'histoire du droit, notamment de protection des droits de l'homme, dans lequel je ne vais pas rentrer, parce que alors là, si on part sur une discussion sur le juste naturalisme et le positivisme, le mal de crâne est présent. Décision qui n'est pas toujours respectée, notamment par les démocraties signataires. Et ça, ça pose la question profonde et difficile de l'effectivité de la protection internationale des droits de l'homme. Dans un ordre international qui est encore aujourd'hui peuplé d'États-nations souverains, qu'est-ce qu'on fait avec la Corée du Nord, qui esclavagise et opprime son peuple depuis plusieurs décennies ? Ah ben, on peut rien faire, ils sont souverains, ils sont chez eux. Est-ce que l'intervention armée est une possibilité ? Est-ce que c'est une nécessité ? Sous l'égide de qui ? Sous la protection de qui ? Pourquoi ? Etc. etc., etc. Ah, de mémoire, la Chine et la Russie ont annoncé qu'elles n'étaient pas intéressées par les droits de l'homme ou l'ONU récemment. Bah, ça les arrange bien. J'ai bien regardé votre histoire de droits de l'homme, là, et tout bien réfléchi, j'ai fait le point avec moi-même, et on a décidé que non merci, on va pas trop notre truc, là. Non, parce qu'après, ça veut dire que les gens, enfin, ouais, non, mais les gens vont devoir décider, vont devoir voter pour choisir leurs dirigeants et tout. Non, vraiment, on n'est pas fan. On n'aime pas trop cette idée-là. C'est un peu du néocolonialisme, hein, vos histoires de... C'est un peu un truc d'occidental, les droits de l'homme. Hein. Ouais. En vrai. C'est des démarches, ouais, c'est des démarches, c'est des problèmes. Le droit de l'homme, ça ressemble à du wokisme, non, j'en veux pas. Bah, tu rigoles, mais c'est ça, on en parlait de Kadyrov tout à l'heure. Ouais, attends, c'est quoi vos histoires, là ? Il faut protéger les droits des quoi ? Des homosexuels ? Non. Non. Nous, on est plutôt sur une oppression assez assumée au nom d'un particularisme culturel et religieux. Voilà. L'Iran, vous êtes d'accord ? Oui, vous aussi, pareil. Hein. Les femmes, tout ça, le voile. Ouais. Ah oui, non. On est bien d'accord. Oui, non. Non, c'est ça. Non, arrêtez de nous emmerder avec vos histoires de vos valeurs, là. Jean, t'es trop beau comédien. T'as vu, je fais bien l'islamiste tchétchène qui veut opprimer les gens. Je te trouve bien intolérant. Ouais. Ils sont intolérants, hein, c'est... C'est comme l'anti-racisme, tu vois, anti-racisme. C'est déjà quand même assez intolérant comme titre, anti-quelque chose. C'est dégueulasse d'être anti. Pas très ouvert d'esprit, hein. Franchement, les chantres de la tolérance, là... Un président peut pas avoir plus de deux mandats consécutifs, mais est-ce qu'il peut avoir au moins trois mandats dans sa vie? Oui. Oui. Ce qui est interdit, c'est la consécutivité des deux mandats. C'est des trois mandats, mais tu peux... Bon, pour répondre à ta question différemment, Emmanuel Macron n'a pas le droit d'être candidat à l'élection présidentielle de 2027. Par contre, il a parfaitement le droit d'être candidat à celle de 2032, à celle de 2037, et ainsi de suite. Et pas ainsi de suite. Enfin, ça dépend. S'il fait deux mandats consécutifs, alors il n'a pas le droit d'être candidat au troisième. Même six mandats, enfin un bon paquet, il n'y a pas de max. Non, il n'y a pas de max. Il n'y a pas de max. Avec la constitution actuelle. Oui, pardon, j'aurais dû préciser. En l'état actuel du droit applicable. Ça peut changer. Et en cas de démission, est-ce qu'il pourrait se représenter tout de suite? Non. A priori, non. C'est jamais arrivé, mais en l'état actuel du droit, ce serait pas possible. Les amis, il est 18h, il y a une nouvelle vidéo qui est sortie sur ma chaîne YouTube, que je vous invite à aller voir, je vais vous mettre le lien dans le chat. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Une vidéo qui parle du fossé entre Emmanuel Macron et les gamers. Vous avez vu l'embrouille entre Kameto et Emmanuel Macron? Et ben, je vous mets le lien dans le chat, on en a parlé en stream samedi. Voici la vidéo, merci à vous d'avoir été là sur ce stream, je vais m'arrêter là, vous cliquez sur cette vidéo, vous allez la regarder, vous la partagez, ça part sur Twitter, let's go! Si t'as pas la ref, bah tu regarderas dans la vidéo, tu verras, j'explique tout. Merci à vous d'avoir été là, je vous fais un bisou, passez une bonne soirée, regardez cette vidéo sur YouTube, à tout de suite, bisous, à demain, ciao. Demain 16h30, hein. Je vous attends, à demain.